enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Expérimenter sa présence, déclencher la manifestation. Ça va certainement apporter un plus et une suite à deux messages. Dans le premier, c'était une atmosphère de foi pour expérimenter la présence de Dieu. Et le deuxième, c'était la communion avec Dieu pour expérimenter sa présence, pour vivre des choses. Et on va voir comment ça va évoluer là, ce message. Mais je crois que le Seigneur veut vraiment nous parler encore et nous amener à des choses plus élevées avec lui, des choses plus profondes, bien même dire plus concrètes. Et ça fait vraiment du bien quand on est là dans la présence de Dieu et dans le culte, et puis que les uns et les autres simplement apportent quelque chose qu'ils ont reçu, et puis tout ça mis ensemble, ça construit quelque chose, et je crois que vraiment le Seigneur est en train de nous parler, et ça fait du bien. On a vraiment besoin de se laisser interpeller, de se laisser utiliser par le Seigneur, par le Saint-Esprit, pour qu'ensemble on aille beaucoup plus loin que ce que juste à quelques-uns ou que quelqu'un tout seul pourrait faire. Et donc, déclencher la manifestation, c'est avec un Z, donc c'est un ordre, déclencher la manifestation. Ça veut dire que la manifestation de la présence de Dieu, ou de l'onction, ou de la gloire de Dieu, vous pouvez appeler ça comme vous voulez, ça dépend de nous, on a quelque chose à faire. Il y a quelque chose à quoi nous sommes appelés à participer pour déclencher la manifestation de la puissance de Dieu. J'oserais appeler ça d'apprendre à se mouvoir avec le mouvement de Dieu. Apprendre à se mouvoir sur le flot de l'esprit. C'est une image que peut-être on a entendue ici et là, mais je crois que c'est une bonne image parce qu'un flot, c'est comme une vague, ça vient, et puis des fois, ça se calme un peu, puis il y a une autre vague qui vient, et il faut apprendre à surfer sur la vague, si je peux dire, à être sur la vague de l'esprit, à pas vivre sur la vague qui vient de s'arrêter, sinon on est dans le creux de la vague, et l'expression s'y prête vraiment bien, mais à apprendre à rester toujours sur la vague, qui est peut-être pas la même qu'hier, mais il y a une vague de l'esprit qui est là et sur laquelle on a besoin vraiment de, ouais, je sais pas, j'ai pas un meilleur mot, mais de surfer, de toute façon tout le monde sait ce que c'est. J'ai pas étudié la technique du surfeur, mais c'est quelqu'un qui maîtrise, quoi, il sait comment apprendre au mieux pour pouvoir tirer le meilleur bénéfice, pour avoir le plus de sensations et idéalement encore pour faire quelque chose de beau pour ceux qui le regardent avec une vague, et je crois que le Seigneur vraiment nous appelle ou nous rappelle de surfer sur la vague, d'être dans le cœur de ce qu'il veut faire. Parce que la présence de Dieu, c'est quelque chose qui nous est acquis. Ça, je crois qu'on l'a compris. Je l'avais développé déjà. La présence de Dieu, elle est là. Dieu a promis qu'il est là, et bah, il est là. Parce que quand Dieu parle, il le fait. Quand la présence de Dieu est là, potentiellement, tout ce qu'on peut espérer ou attendre ou avoir besoin, c'est là. Parce que dans sa présence, il y a tout. D'accord? Dans la présence de Dieu, il manque rien. Au ciel, il manque rien. Donc si Dieu est là, avec lui, il y a tout. Il y a tout. Et nous avons besoin d'apprendre à déclencher ce tout, la manifestation de ce qui est en Dieu, de ce qui est dans la présence de Dieu. Si vous voulez, c'est comme s'il peut y avoir peut-être un paquet cadeau accroché là-haut et qu'on est là à le regarder, peut-être qu'on trouve que c'est bien, mais si on n'en sort jamais le contenu, c'est dommage, d'accord ? On a besoin de réaliser que Dieu aussi est là, sa présence est là, c'est bien d'honorer sa présence, d'admirer sa présence même, mais on a besoin d'apprendre à entre guillemets sortir le contenu de sa présence. Les mots sont imparfaits, mais je pense que vous comprenez l'idée. Et Dieu veut vraiment nous amener à aller plus loin dans ces choses. Une église où il y ait quelque chose qui est nulle part ailleurs, et ce quelque chose, une présence de Dieu. Et je crois que la présence de Dieu, elle peut être ailleurs. Mais le quelque chose qui est nulle part ailleurs, ça peut être le fait qu'on apprend et qu'on est capable de déclencher ce qui est dans la présence de Dieu ici, ce que Dieu a destiné ou préparé pour ici, ce que Dieu veut faire quand il vient. Parce que quand Dieu vient, il vient pour faire quelque chose, d'accord ? Souvent quand vous êtes quelque part, c'est parce que vous avez une raison d'y être. Sinon c'est un peu dommage si on ne sait pas pourquoi on est là, d'accord ? Parfois quand je me rends quelque part, c'est parce que j'ai quelque chose à y faire. Et la meilleure situation qu'on puisse rencontrer, c'est de se trouver en face de gens qui sont là pour que vous puissiez faire ce que vous êtes venu faire. D'accord ? Si vous êtes là avec des gens qui soit sont passifs, soit ne remarquent même pas que vous êtes là, ou n'en ont entre guillemets rien à faire de ce que vous êtes là, c'est vraiment dommage. Mais si vous êtes là et que les gens sont contents de vous voir et sont contents de savoir que vous venez pour faire ce que vous voulez faire et vous donnent la possibilité de le faire, là, il y a quelque chose qui va pouvoir se passer. Et c'est vrai que Dieu est souverain et il peut faire ce qu'il veut, mais Dieu veut que nous soyons participants. Donc il ne va pas venir et dire maintenant je fais ça, je veux faire ça et je le fais, mais Dieu veut faire des choses, mais il nous donne ce qui est en fait le libre arbitre que Dieu nous a donné, eh bien de pouvoir participer, de pouvoir lui permettre ou non de faire ce qu'il veut faire, de pouvoir le faire en partie ou parfois de passer à côté. Et c'est pas, je ne veux pas dépeindre un tableau noir ou dire qu'on empêche Dieu de faire ce qu'il veut faire, mais on a besoin de plus en plus d'apprendre à être dans l'esprit, à détecter ce que le Seigneur veut faire pour vraiment être des déclencheurs de ce qu'il veut faire. Parce que c'est dommage de passer à côté de ce que le Seigneur veut faire. Parfois on touche un peu à quelque chose, mais c'est tellement dommage de toucher un petit peu quand il y a toute une plénitude qui est là et que le Seigneur veut vraiment déverser sur nous, pour nous-mêmes, mais aussi pour les gens peut-être qui sont autour de nous ou qui viendraient ou qui viennent en nous, et à un moment donné ça va aussi pouvoir se déverser vers d'autres autour de nous. Et ça, c'est vraiment le plan de Dieu, c'est le destin de Dieu. Quand Jésus dit « si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et boive », c'est parce qu'il veut donner à boire. Il ne va pas dire « venez » et puis il dit « voilà, vous avez soif, moi j'ai ce qu'il faut ». Voilà, le Seigneur veut nous donner à boire. Le Seigneur veut abreuver la soif. Le Seigneur veut vraiment nous donner tout ce que nous désirons et même beaucoup plus. Et même beaucoup plus. Mais on a besoin de vraiment faire de ça quelque chose d'important dans notre vie. J'allais même dire une priorité. Apocalypse 2, on peut regarder rapidement. Je mets une petite nuance, et surtout ne croyez pas que ce message soit condamnateur, soit pour nous ici, soit pour l'Église dans son ensemble ou autre. Mais je crois que la parole de Dieu a vraiment des implications prophétiques fortes. Et même si parfois on a pris l'Apocalypse en disant que telle lettre correspondait à peut-être telle époque de l'Église ou à tel lieu géographique ou autre, il y a au-delà de tout ça une portée prophétique qui nous concerne tous aujourd'hui et où le Saint-Esprit veut nous interpeller. Donc Apocalypse chapitre 2 et au verset 4. Donc c'est un message à l'église d'Éphèse. « Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » Verset 5. « Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. » Et je m'arrête là. Donc ici, apparemment, il y a un bilan relativement positif de l'église d'Éphèse qui est fait. Mais il y a quelque chose qui colle pas, c'est que l'église aurait abandonné son premier amour. Et la réponse du Seigneur à ça, c'est « Souviens-toi d'où tu es tombé et repens-toi. » Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Donc Dieu ne dit pas tu as abandonné ton premier amour, tu as perdu quelque chose, bah tant pis, c'est terminé pour toi, désolé, ça aurait pu être mieux, mais voilà, on va s'arrêter là. Non, ce que Dieu dit, c'est ok, il y a un problème, tu as perdu ton premier amour, il y a quelque chose qui manque, mais reviens à moi. Le message de Dieu, c'est pas d'exclure les gens, mais au contraire, il dit voilà, il y a un problème, il est là, mais reviens à moi. Dieu désire que son Église puisse revenir à moi, à lui, pardon. Et abandonner ce premier amour, ça ne veut pas forcément dire de rejeter Dieu ou de plus du tout aimer le Seigneur ou de plus avoir même de zèle pour l'Église, l'évangélisation ou autre chose. On peut faire beaucoup de choses, mais en fait, le premier amour, c'est vraiment ce qui est à l'intérieur de vous, ce qui est au plus profond, ce qui vous motive, ce qui vous amène à vivre vraiment quelque chose d'intense avec Dieu. Et il faut reconnaître qu'il y a des moments où on n'est pas peut-être au top ou au maximum de notre motivation, de notre désir ou de notre implication pour voir la présence de Dieu se manifester. Et il y a eu des moments, des périodes dans l'Église, dans des ministères ou même pour des chrétiens où peut-être on a vécu des temps vraiment forts avec Dieu. C'était vraiment génial et parfois on parle de certains mouvements, de certaines choses. Mais ce que le Seigneur donne comme message, c'est souviens-toi d'où tu viens. Donc on a le droit de se souvenir de des moments forts, intenses qu'on a eu. Peut-être que vous avez eu des jours ou même des périodes où vraiment c'était fort avec Dieu, vous étiez tout le temps vraiment brûlant et puis vous vous sentiez à la présence de Dieu, vous entendiez Dieu parler, peut-être que vous étiez saisi de manière ou d'autre. Mais on peut s'en souvenir, mais pas juste pour vivre sur le passé, mais souviens-toi d'où tu étais et ce que le Seigneur nous permet de faire, c'est d'y revenir et encore d'aller plus loin. Donc on ne va pas juste se souvenir et dire « mais qu'est-ce que c'était bien à cette époque-là, ce que Dieu faisait ?» Dieu n'a pas arrêté de faire. Dieu n'a pas arrêté de faire. Je ne crois pas qu'il y ait un moment où Dieu ait dit « bon, maintenant, c'est bon, là, on s'est assez amusé, j'ai plus envie qu'il y ait de la joie dans l'Église. » À aucun moment Dieu n'a dit ça. Même Dieu est joyeux, il a même ordonné à son peuple de se réjouir, si vous lisez l'Ancien Testament. Il a donné pour ordre « il faut que vous fassiez la fête, Il faut que vous vous réjouissiez. Et Dieu veut mettre de la joie. C'est un exemple. Il y a beaucoup de choses. Parce que parfois, on dit, oui, voilà, en telle année, il y avait le réveil de la guérison. Il y avait le réveil de la joie. Il y avait le réveil de ceci. Mais ça, c'est notre vision humaine. Et c'est peut-être la façon dont nous l'avons vécu. Mais en fait, pour Dieu, il n'y a pas un réveil de ceci, un réveil de cela. Dieu est tout le temps au top niveau de la manifestation de sa puissance. Et son désir, c'est que nous apprenions à rester au top niveau en apprenant comment Dieu agit maintenant, parce que Dieu bouge. Dieu, c'est vrai, la Bible dit qu'il n'y a pas en Dieu de changement ou de variation, mais Dieu n'est pas un être statique. Il n'est pas juste là, et puis c'est tout le temps pareil. Parce que Dieu vient rencontrer les gens. Et comme les gens sont des gens qui bougent, des gens qui changent, des gens qui évoluent, et bien Dieu aussi vient avec des manières qui évoluent. Le message ne change pas. L'évangile reste le même, la puissance de Dieu reste la même, mais il y a une façon à saisir, à chaque fois, peut-être même à chaque instant, pour permettre à Dieu de pleinement manifester sa présence. J'espère que vous saisissez ça et que vous êtes d'accord avec moi. Et on a besoin de ne pas juste rester sur ce qu'on a peut-être appris à un moment donné, mais de tout le temps être à l'écoute, d'avoir les antennes dressées, si on veut, pour vraiment être au cœur de ce que le Seigneur veut faire. Et de dire aujourd'hui, ce qu'il va faire, c'est peut-être pas comme hier et c'est certainement pas comme demain. Et peut-être qu'il y a des choses qui reviennent aussi, mais vraiment être au cœur de ce que Dieu veut faire pour déclencher la manifestation. Donc nous avons notre part à jouer. D'ailleurs, la parole nous dit que nous sommes co-ouvriers avec Christ. Donc un co-ouvrier, en principe, ce n'est pas un qui regarde ce que le premier fait. Un co-ouvrier, c'est tous les deux qui travaillent ensemble. D'accord ? Sinon, il y a un petit problème dans l'équipe. S'il y en a un qui fait tout et l'autre qui regarde, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc, on a besoin de travailler ensemble avec le Seigneur. Et merci Seigneur pour cette parole qui a encore été donnée tout à l'heure, parce que c'est ça, en fait, de travailler ensemble avec le Seigneur. Et en travaillant ensemble, ça va aussi nous amener à des choses nouvelles, à aller plus loin, parce que Dieu veut qu'on aille beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin. Et ça, c'est un message que je répéterai peut-être des centaines ou des milliers de fois, mais il est impérissable, parce que de toute façon, il y a toujours plus. Et on ira toujours plus avec le Seigneur. Mais il y a un moment où on a besoin de saisir et de dire... Ok, maintenant je me saisis de ce message et quelle est la part que je peux jouer, comment je peux apprendre à surfer sur cette vague du Saint-Esprit. Et pour ça, on a besoin que ça ait de l'importance pour nous d'avoir ce premier amour. En fait, premier amour, c'est pas le premier que j'ai eu il y a longtemps, c'est un amour qui est toujours premier. C'est-à-dire qu'il est tout le temps nouveau. Je vis pas sur l'amour que j'avais hier ou il y a 10 ans. Parfois on dit oui, le jour où tu t'es converti, tu étais zélé. Ouais, il y avait un premier amour, mais il y a un premier amour pour aujourd'hui. Et aussi parce que la bonté de Dieu se renouvelle chaque jour. Donc il y a chaque jour des choses que Dieu veut faire, sa bonté. Et il y a chaque jour en nous un amour nouveau qui doit être là, qui doit être vivant et qui nous fait nous connecter aux bontés que Dieu veut manifester juste maintenant. Juste maintenant. Et on a vraiment besoin de pas être là à peut-être pleurnicher sur ce qui s'est passé ou à espérer seulement de manière un petit peu... flou, ce que Dieu pourrait peut-être faire, mais de vraiment être les gens qui sont au cœur de ce que Dieu veut faire et de vraiment déclencher cette manifestation de Dieu. Parce que Dieu a besoin d'hommes et de femmes qui déclenchent sa manifestation. Pas juste qu'ils croient, pas juste qu'ils attendent, mais qu'ils la déclenchent. Il y a quelque chose à faire et nous pouvons être ces gens-là. Nous pouvons être ces gens-là. C'est pas quelque chose qui est réservé à quelques-uns. C'est pas juste que Dieu va seulement susciter l'un ou l'autre ministère pour ça, mais c'est le travail de chaque enfant de Dieu. C'est nous, son corps, qui pouvons être ces gens-là, si seulement nous le voulons bien. Si seulement nous le voulons bien. Et c'est l'appel de Dieu. Alors vraiment, ayant cet amour ardent, ce désir pour la présence de Dieu. Et je reconnais que moi-même, dans ma vie, c'est pas toujours le premier truc que je cherche. Et il y a quelques jours, je faisais ce constat, j'ai dit... Ouais, je le dis, je vous le dis, parce qu'il faut l'espoir, il faut être simple et il faut savoir le reconnaître. Mais je disais, je sais pas, j'ai passé quelques jours et j'ai eu tellement d'occupations, tout ça, mais combien de temps j'ai passé vraiment dans la présence de Dieu? Oui, j'ai prié. Oui, j'ai prié. Oui, j'ai un petit peu lu ma Bible, d'accord. Mais c'est pas ça. Il y a quelque chose de beaucoup plus fort, c'est de vraiment passer un moment avec Dieu, c'est de vraiment se connecter à Dieu. Et ça, ça marche pas avec notre méthode. C'est-à-dire que c'est très bon d'avoir une discipline de lecture de la Bible. C'est bon d'avoir une discipline de prière, mais tout ça sans vraiment quelque chose de concret et de cœur à cœur avec Dieu. Je veux dire, ça sert à rien. C'est pas ça qui fait qu'on va pouvoir vraiment vivre des choses intenses. D'accord? Ça, c'est bien, mais c'est pas ça le cœur. Le cœur de la manifestation, la présence de Dieu, c'est des hommes et des femmes qui sont capables d'un cœur à cœur avec Dieu. Et qui sont capables de savoir ce qu'il veut, ce qu'il prévoit de faire, ce qu'il désire, et qui sont capables de déclencher cette manifestation. dans notre vie quotidienne et dans l'Église. Et ça va prendre des dimensions vraiment exceptionnelles si déjà chacun, on est capable de déclencher les choses pour nous-mêmes, pour les gens autour de nous. Et ensuite, avec l'Église, on va pouvoir déclencher des choses qui vont plus seulement répondre à nos seuls propres besoins, parce qu'on a déjà appris à le faire tout seul, mais qui vont commencer à répondre aux besoins de l'Église, du corps de Christ, mais aussi aux besoins de la société dans laquelle nous sommes. Et on va se retrouver à être des gens comme Salomon, auprès de qui les gens importants du monde entier venaient pour avoir son conseil, parce qu'il avait la sagesse de Dieu, parce qu'il savait entendre de Dieu, parce qu'il déclenchait quelque chose dans le monde spirituel qui faisait qu'il avait des réponses. Il les prenait où ? Auprès de Dieu. Lui, peut-être qu'il n'avait pas plus de réponses que nous, mais il a fait un jour un choix, c'est de recevoir la sagesse. Et en demandant la sagesse, ben, il savait comment faire pour déclencher la manifestation de Dieu. Il savait comment faire pour avoir une intelligence surnaturelle. Des gens comme Daniel aussi, ils savaient comment faire pour interpréter les rêves. Comment ? Ben, ils avaient appris à déclencher des choses dans le monde spirituel. Ils avaient appris à recevoir l'explication. Et puis les gens les reconnaissaient pour ça. Les gens venaient à eux parce qu'ils voyaient qu'il y avait quelque chose d'autre. On disait de lui et ses compagnons, oui, c'est lui, qu'ils avaient un esprit supérieur. Il y avait quelque chose qu'on ne trouvait pas ailleurs. Ouais, justement. Voilà, nous y voilà. Merci Seigneur. Ouais, quelque chose qu'on ne trouvait pas ailleurs. Donc, ayons vraiment cette soif de Dieu. Cette soif de Dieu. Il y a tellement de sources auxquelles on peut s'abreuver. Tellement de sources. Il y a tellement de choses qui peuvent nous remplir notre temps, nous prendre notre énergie. Et c'est pas toutes des mauvaises choses. C'est pas tout du péché. Mais on a besoin de définir nos priorités. En sachant où on veut aller. En général, quand on se fixe un objectif, on sait où on veut aller. On sait on va faire le nécessaire pour pouvoir y aller. Et à un moment donné, peut-être il y a autre chose qui va passer en premier plan que ce qui peut-être hier était au premier plan pour moi, parce que je vais ailleurs où je veux accomplir autre chose que ce que je voulais accomplir hier. Et si nous voulons accomplir des grandes choses et aller vraiment au cœur de ce que Dieu veut faire, on a besoin aussi de redéfinir certainement des priorités. Je ne dis pas de tout chambouler, de tout casser, mais de redéfinir des priorités et aussi de savoir les maintenir. Jésus dira « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et toute chose vous sera donnée par-dessus ». On le connaît tellement bien, on le chante, on fait beaucoup de choses avec ce verset. Il est vraiment bien, mais réalisons que c'est vraiment ça la première chose. Premièrement, avant tout, premièrement. Premièrement. Et que ça reste en première place. Parce qu'il y a une forme de combat. Parce que des fois, on peut vraiment mettre Dieu en premier, se reprendre un petit peu en main. Et puis, sans s'en rendre compte, il y a de nouveau autre chose qui est passée avant. Et à chaque fois, on est obligé de se dire, mince, il faut encore que je remette ça en ordre. Mais apprenons aussi à maintenir cette priorité. Et en fait, ça devient plus facile quand on marche vraiment dans l'esprit. Parce que, en fait, en restant tout le temps à l'affût et dans l'attente de ce que Dieu veut faire, de ce qu'il veut communiquer, il reste ce qu'il y a de plus important pour nous. Parce qu'en fait, ce qui prend le dessus, ben, c'est ça. Et il n'y a rien d'autre qui va prendre la place parce qu'on est vraiment accroché à ça. Et je pense à ces paroles de Jésus dans Jean 4. Quand il parle à la femme près du puits, c'est Jean 4 en principe. Voilà, Jean 4 au verset 13. Donc en fait, Jésus rencontre la femme samaritaine, hein, épisode très connu. Et il lui répondra, « Quiconque boit de cette eau, donc l'eau du puits, aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Et ce passage, il est vraiment bien, vraiment intéressant. Et il peut s'appliquer peut-être à plusieurs choses, mais on y voit aussi qu'en fait, quand on boit cette eau que Jésus lui donne, on n'aura plus soif, pas qu'on n'aura plus soif de lui, mais en fait, on n'aura plus soif d'autre chose, parce que les autres eaux, ça a plus de goût, ça ne nous apporte plus rien. On va plus attendre, comme peut-être c'est le cas aujourd'hui, de sentir vraiment la carence, de se dire « Ah, mais tiens, là, je suis passé à côté de quelque chose pour revenir à Dieu », mais on va même plus avoir goût à autre chose. Et ce qui va vraiment compter pour nous, c'est cette soif de Dieu, de boire cette eau, de son eau pure et de ce que lui veut vraiment nous communiquer. Et on a besoin d'entretenir cette soif de Dieu, cette soif. Si vous avez soif, il va vous donner à boire. Et je pense à un collègue de travail, là. Le matin, on va souvent prendre le petit-déj à la cantine. Et donc, il y a du café aussi, entre autres. C'est peut-être pas très bon. Moi, j'aime bien, donc je prends toujours mon petit café. D'ailleurs, c'est très intéressant pour l'illustration, parce que la semaine dernière, il s'est passé deux choses un peu spéciales. Donc, un jour, je venais là, et il y avait deux tailles de gobelets, déjà, des petits gobelets, des plus grands gobelets. Et puis, il y a un collègue qui arrive et puis lui, il vient carrément avec son bol. Donc, tous les jours, il vient avec son bol pour prendre son café. Bon, il paye le même prix et tout. Donc, c'est intéressant comme formule. Et je me suis fait cette réflexion et j'ai dit, tiens, mais quelquefois, on est aussi comme ça, peut-être avec le Seigneur. Et avec quel récipient est-ce qu'on vient quand on vient dans la présence de Dieu? Est-ce que je prends un petit gobelet? Je prends un grand gobelet? Est-ce que je prends mon bol ou encore plus? Et je crois que ça détermine ce qu'on reçoit. D'accord? Et au-delà de juste la réalité de la cantine, avec quoi est-ce que je viens pour recevoir quand je viens dans la présence de Dieu? Est-ce que je prends juste un verre parce que c'est ce dont je vais avoir besoin et ça va me satisfaire? Ou est-ce que je vais prendre vraiment une bouteille d'eau, là, quand vous avez soif, quelquefois un verre, ça vous suffit parce que c'est pas extrême. D'autres fois, il vous faut vraiment une bouteille ou même plus si vous avez vraiment une grosse soif. Et de la même façon, lui, Dieu répond à notre soif dans la mesure où on est prêt à recevoir. Il nous en donne autant qu'on peut en supporter, si j'ose dire. Et en fait, il peut faire infiniment plus. Donc, à la limite, si même on peut juste ouvrir le robinet et puis ça va couler sans arrêt, d'accord? Si vous ouvrez le robinet de votre douche, en principe, il ne s'arrête pas de couler, à moins qu'il y ait une panne ou une coupure d'eau, ou alors que vous ne payez pas la facture et ça s'arrête. Mais nous, Jésus a déjà payé. Jésus a tout payé. Donc, il n'y a pas de limite. On peut venir prendre autant qu'on veut auprès du Seigneur, parce que Jésus a tout acquis. Jésus a tout payé. Et la preuve, eh bien, c'est notre foi. Et donc, quand on arrive avec notre foi en ce que Jésus a fait pour nous, on peut vraiment retirer sans limite auprès du Seigneur toutes les bénédictions qu'il a préparées pour nous. Parce que lui désire les verser sur nous. Lui, il désire nous donner. Lui, il désire nous amener plus loin. Et il le fait dans la mesure où nous, on l'accueille. Et j'allais dire que la présence de Dieu et sa puissance se manifestent quelque part dans la mesure où elle est accueillie et j'irais même plutôt attirée. C'est pas juste de dire oui Seigneur, on veut bien que tu viennes, mais c'est d'attirer le Seigneur. C'est d'avoir vraiment cette soif, ce désir cette capacité, si je puis dire, à attirer la manifestation de la présence de Dieu. Pas juste à l'attendre, pas juste à dire si ça vient, c'est bien, mais à dire il faut que la présence de Dieu se manifeste. Il faut que quelque chose se produise. Alors, ayons cette soif et notre soif et la disposition à recevoir va déterminer ce qu'on va recevoir de Dieu, ce qu'on va obtenir. Et ça, c'est important de le réaliser. Parce que c'est vrai que notre Dieu est tout puissant. Et comme je disais tout à l'heure, il est souverain, il fait ce qu'il veut, mais il ne fait pas sans nous. Quelqu'un disait d'ailleurs que Dieu a besoin des hommes pour pouvoir agir sur la terre. Dieu a besoin de la prière des gens, mais Dieu a aussi besoin de gens qui entendent et qui simplement agissent tel qu'il faut. Donc vraiment, venons à Dieu avec une attente et un désir ardent de recevoir, de vivre quelque chose avec lui. Pas seulement forcément pour nous-mêmes, peut-être que vous n'avez pas besoin de quelque chose en particulier, mais au-delà de notre besoin, vraiment recherchons la présence de Dieu. Recherchons la manifestation de sa présence. Et dans sa présence, quand nous apprenons à lui donner l'occasion de se manifester, on va recevoir beaucoup plus que ce dont nous-mêmes on avait besoin, et ça va répondre aussi aux besoins des autres. Et peut-être que certains ont déjà touché quelque chose de la présence de Dieu un jour ou l'autre, mais on n'a rien vu encore. On n'a vu que très peu. On a peut-être juste un tout petit peu soulevé le bord de l'emballage et on n'a pas vu encore ce qu'il y a vraiment à l'intérieur. Il y a des choses vraiment, vraiment énormes que le Seigneur veut faire. Et pour ça, comme je disais tout à l'heure, apprenons à nous mouvoir avec le mouvement de Dieu. Apprenons à bouger quand Dieu bouge, à parler quand Dieu parle, à agir tel que Dieu désire agir. Soyons ces gens-là. Moi, je crois que c'est vraiment quelque chose de concret. Hein. Quelqu'un qui m'entendrait peut-être va dire mais qu'est-ce qu'il raconte ce gars-là? Et c'est vrai qu'avec l'intelligence, je veux dire mais qu'est-ce qu'il raconte? Comment ça a bougé avec Dieu? Oui, ça veut rien dire, mais dans l'esprit, ça veut dire quelque chose. Donc, mettons notre intelligence un tout petit peu en stand-by quand elle commence à poser trop de questions. Et saisissons les choses dans l'esprit. Et en fait, quand on commence à vivre les choses dans l'esprit, notre intelligence aussi s'éclaire. Et tout d'un coup, on est capable de comprendre, même si on ne l'explique pas dans des termes humains, mais de comprendre et de trouver que c'est ça, et que c'est comme ça que ça fonctionne. Et on a le témoignage du Saint-Esprit et on est capable d'aller plus loin dans les choses. Parce que si on commence par réfléchir et vouloir calculer, on va jamais aller plus loin. Jamais de la vie. C'est pas possible. C'est pas possible. Mais Dieu veut vraiment que nous saisissions pleinement ce qu'il a préparé pour nous. Pleinement. Et l'apôtre Paul l'exprime dans sa prière aux Éphésiens, au chapitre 1, on va y regarder, où il dit entre autres que nous avons été bénis de toute bénédiction, etc. Il rappelle un petit peu ce que Dieu a fait pour eux, et on va lire à partir du verset 15, où il continue, il dit « C'est pourquoi, Éphésiens 1, verset 15. Moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Amen. Donc là, Paul fait une prière pour les Éphésiens. Il désire qu'ils connaissent, qu'ils aient l'intelligence, qu'ils aient la sagesse de comprendre, en fait, ce que Dieu voudrait faire, si on veut. Hein. On peut reprendre les points à part, chacun pour soi, mais de comprendre ce que Dieu veut faire. Et au verset 19, on a cette expression, « Quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant ?» Pas juste sa puissance qui existe, qui est quelque part, mais « se manifestant ». Et avec efficacité. Est-ce que Dieu désire pour nous, est-ce que Paul désirait, apparemment pour les Éphésiens, peut-être que je vais un petit peu plus loin que ce qui est clairement dit, mais je crois qu'il voulait que les Éphésiens apprennent à savoir à comment faire pour que la puissance de Dieu se manifeste avec efficacité. Parce que Dieu a fait des choses, Dieu a mis sa puissance à notre disposition, mais nous avons besoin d'apprendre à ce qu'elle se manifeste avec efficacité. Et ça, on ne peut pas l'étudier ou l'expliquer avec des principes ou des choses simplement humaines, même pas religieuses, mais c'est des choses qu'on reçoit. C'est la révélation, c'est la connaissance. Et en fait, c'est une sagesse qui nous vient de Dieu et qui nous permet d'aller plus loin dans les choses et de faire les bonnes choses au bon moment. Nous savons que Dieu veut faire sur la terre les choses telles qu'elles sont au ciel, puisqu'on prie que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mais alors faisons en sorte que ce qui est au ciel vienne sur la terre. Et ça, c'est notre part. C'est notre part. Quand Jésus nous enseigne à prier ça, il nous fait pas comprendre que c'est juste, ça dépend que de Dieu, il faut juste lui demander. Mais en fait, quand Jésus nous enseigne à prier, comme dans tout notre Père d'ailleurs, à chaque ligne, si j'ose dire, de prière, il y a, c'est vrai, une part de Dieu, mais ça nous fait prendre conscience aussi d'une part que nous avons à jouer. Parce que pour que la volonté de Dieu se fasse sur la terre comme au ciel, il faut que nous qui sommes sur la terre, nous permettions que cette volonté du ciel vienne se manifester. Donc nous avons besoin de jouer cette part. Et quand la présence de Dieu, quand sa gloire qui est au ciel vient sur la terre, eh bien avec elle vient la provision. Avec elle viennent toutes les choses qu'on peut espérer et bien au-delà. Bien au-delà, parce que sa puissance dépasse tout ce que nous pouvons attendre. Donc on a besoin d'agir avec inspiration, avec la connaissance, la sagesse, la révélation. Pas avec un système ou quoi que ce soit, mais vraiment, vraiment comme ça. Donc ça veut dire quoi concrètement? C'est-à-dire que quand je viens dans la présence de Dieu, eh bien je m'attends au Seigneur. Et ça c'est vrai pour le pasteur, c'est vrai pour les dirigeants de la louange, c'est vrai pour les gens qui sont dans le service, mais c'est vrai pour chacun. Parce qu'on a tous besoin d'être dans cette attitude. Et moi-même, je prends conscience de quelque chose et quelquefois, on se rend compte, quand on vient à l'église, comment on vient. Même si on vient avec une bonne disposition ou le désir de louer Dieu, de l'adorer, de vivre quelque chose avec Dieu, est-ce que je viens vraiment en m'attendant à vraiment capter ce que Dieu veut faire et à entrer dans ce qu'il fait? Est-ce que je viens vraiment avec le désir de déclencher la manifestation de Dieu? Ou juste d'en bénéficier? Ou juste de voir quelque chose se passer? Ça, c'est vraiment quelque chose qui est une clé, je crois, que Dieu veut nous communiquer. Apprendre à déclencher la manifestation, l'Esprit de Dieu, et pour ça, on reçoit la sagesse et l'intelligence de Dieu. Parce que sans cette sagesse et cette intelligence de Dieu, on va facilement tomber dans des débordements et des excès. Lesquels expliquent aussi, sans vouloir porter du jugement, le déclin de beaucoup d'apparents mouvements puissants de Dieu qu'il y a eu dans les années et qui se sont arrêtés. Mais encore une fois, je ne veux pas faire un tableau noir et dire « Ah, les gens ont eu tort, ils sont nuls, on est meilleurs. » Non. Mais je me dis « Qu'est-ce qui fait que ça va marcher, ce que le Seigneur nous appelle à faire ?» Et le Seigneur nous appelle vraiment à marcher avec sagesse et intelligence. Ça va rejoindre encore quelque chose qu'on a entendu il y a quelques minutes, mais quelquefois, c'est nous qui limitons Dieu parce qu'on se dit « La manifestation de la puissance de Dieu, c'est ça. » Donc il faut un gros truc, peut-être bruyant, idéalement même bruyant, parce que c'est bien, ça fait de l'effet. Il faut peut-être un quelque chose de visible et de grand. Il faut peut-être qu'il y ait vraiment du monde dans un rassemblement, etc. Mais tout ça, c'est des effets, mais ce n'est pas des déclencheurs. Tout ça, c'est des choses qu'on voit, mais ce n'est pas ça l'essentiel. Ce qui est essentiel, c'est la présence de Dieu et son action, le fait de savoir la déclencher. On va quand même le lire, parce que les gens qui écoutent le message n'étaient pas là tout à l'heure. Donc on va prendre 1 roi, chapitre 19, où on voit Élie, 1 roi 19. Et à partir du verset 11, donc je ne vais pas refaire le résumé de toute l'histoire, mais donc Élie est là et en fait Dieu l'invite à venir dans sa présence. Hein, verset 11, l'Éternel dit « Sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. » Waouh, c'est bien ça, hein? Un vent fort et violent qui déchire les montagnes et brise les rochers. On imagine certainement même pas ce que ça peut être, mais je ne sais pas si vous vous rappelez de la tempête de 99 qui était capable de faire tomber nos arbres et arracher nos toits. C'était déjà impressionnant, hein? Mais briser des montagnes et des rochers, je crois qu'il faut en mettre peut-être encore un petit peu plus. Et c'était impressionnant. Et peut-être que si j'étais à la place d'Élie, j'aurais dit, waouh, mais ça c'est Dieu. Ça c'est Dieu, une puissance pareille. Mais qu'est-ce qu'il est dit juste après? L'Éternel n'était pas dans le vent. Ah, bon, d'accord. Première claque. On continue. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. Tremblement de terre, c'est assez impressionnant aussi, hein, quand on voit ce que ça peut produire. Et peut-être que là, il s'est dit, ah, mais ce coup-ci, c'est Dieu, là. C'est bon, il m'a fait une blague tout à l'heure. Et qu'est-ce qu'il est dit? L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Ensuite, après le tremblement de terre, verset 12, un feu, et l'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Et verset 13, quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau, il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et je m'arrête ici. Donc Élie a vu beaucoup de choses impressionnantes se passer sous ses yeux, mais Dieu n'était pas dedans. Mais quand il a entendu le murmure doux et léger, qu'est-ce qu'il a fait? Il a reconnu la présence de Dieu. Mais ce même Élie qui, un tout petit peu plus tôt, avait fait tomber le feu du ciel pour confondre les faux prophètes, il avait toutes les raisons de dire, tiens, mais maintenant le feu c'est bon, là c'est Dieu. Non, il savait reconnaître. Il a su reconnaître quand il a entendu ce murmure doux et léger. Il a été obligé de s'envelopper parce qu'il a vu, ça c'est la présence de Dieu. Ça c'est le Seigneur qui me parle. Donc je ne veux pas dire que Dieu ne se manifeste pas de manière puissante et qui peut nous secouer, nous ébranler, nous faire entre guillemets perdre les pédales. Oui, Dieu le fait, mais pas forcément toujours. Donc ne limitons pas Dieu ou sa manifestation à la manière qui peut-être nous plaît, nous convient ou qui nous semble la plus appropriée, mais soyons ceux qui savent reconnaître. Ça c'est l'action de Dieu. Et aussi dans les temps où nous sommes, parce qu'on est averti dans la Bible, ne nous laissons pas impressionner par peut-être quelque chose qui semble vraiment explosif et impressionnant en se disant « Dieu est dans ça ». Peut-être, mais sachons reconnaître où Dieu est et surtout soyons dans ce dans quoi Dieu est. Oui, ça va, c'est correct. Soyons dans ce dans quoi Dieu est. Et en fait, ce à quoi nous sommes appelés, c'est pas à chercher quelque chose, une manifestation, on se dit c'est bon Dieu, là j'y vais, mais c'est d'apprendre à déclencher dans notre vie et là où nous sommes la manifestation de Dieu. Pas de dire oui, mais là où je suis c'est mort ou c'est pas exactement comme je voudrais, alors je vais aller là-bas parce que là-bas il y a vraiment la puissance. Non, c'est là où je suis, il faut que je déclenche la puissance de Dieu. C'est obligé parce que Dieu est là. D'accord? Donc peu importe où je me trouve, peu importe combien de personnes sont avec moi, peu importe le style ou ce que vous voulez ou ce qu'on a pu dire ou ce qu'on peut penser, là où je suis, je vais déclencher la manifestation de la puissance de Dieu. Là où je suis. Et je ne vais même pas essayer de m'associer à quelqu'un ou de m'attacher à quelqu'un pour que lorsqu'on parle de lui, on dise « Ah oui, mais moi c'est mon ami. » Ça fait bien, on sait que Dieu agit avec lui. Non, c'est, je vais déclencher la puissance de Dieu là où je suis. Donc évidemment, ça n'évite pas les relations, c'est bien. Mais déclenchons la présence de Dieu là où nous sommes. Et soyons ceux qui désirons, sans aucune prétention, mais peut-être devenir les références. On dise « Mais chez eux, il y a quelque chose qui se passe. » Tiens, mais lui, je ne sais pas ce qu'il fait, mais il a un esprit supérieur. Lui, il amène la puissance de Dieu là où il est. Lui, il se passe quelque chose quand il est là, ou elle. Et soyons ces gens-là. C'est pas de la prétention, c'est pas de truc. Moi, ça m'est égal que les gens le reconnaissent ou pas, pourvu que ce soit le cas. Parce qu'il y a des gens dont on dit qu'ils sont vraiment utilisés par l'onction, mais franchement, vous vous asseyez devant eux, vous pouvez ne... Hein? Il peut ne rien se passer. Et parfois, les gens se sont construits une image parce qu'à un moment donné, ils ont vécu quelque chose de fort, et puis maintenant, ils ont la renommée, et les gens viennent à cause de ça. Mais tout ça, c'est... Laissons tomber tout ça. Laissons tomber tout ça. Ça, c'est les choses du monde. Hein. Je ne dis pas forcément juste pour nous ici, mais franchement, c'est quoi ça? Ça ne veut rien dire. Ce qui compte, c'est la puissance de Dieu à l'œuvre. Et pour ça, d'apprendre. Parce qu'on peut voir des choses que certains faisaient dans l'histoire des réveils. J'avais lu quelque part, je ne sais plus qui c'est, mais un évangéliste qui, par exemple, un jour priait pour quelqu'un et puis il met un coup de poing dans le ventre de la personne et la personne reçoit sa guérison. C'est assez impressionnant, hein? Mais ça ne veut pas dire qu'on va tous se mettre à mettre des coups de poing dans le ventre des gens. D'accord? Ça serait un petit peu risqué quand même. Mais il a su certainement à ce moment-là entendre de Dieu ce qu'il fallait faire pour cette manifestation-là. Et on voit comme ça des choses un petit peu étranges, mais c'est pas juste parce qu'il voulait faire autrement que les autres. Parce que sinon il aurait pu faire mal à la personne et ça aurait pu être dangereux pour lui. Mais nous avons à notre disposition, Dieu désire nous donner une sagesse et une connaissance qui nous donne de savoir quoi faire dans quelle situation pour déclencher sa puissance. Et même s'il y a des choses qu'on sait parce qu'il y a des enseignements qui sont là, c'est vrai, il y a l'expérience des années passées qui sont là. Par exemple, dans le domaine de la guérison, on sait qu'il y a l'imposition des mains, on sait qu'il y a l'onction d'huile, on sait qu'il y a des choses et ce sont des bonnes choses. Mais apprenons aussi à juste savoir à ce moment précis, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait qui va déclencher la puissance de Dieu? Donc effectivement, ça peut être l'imposition des mains, ça peut être l'onction d'huile, ça peut être autre chose. Nous avons besoin de choisir le bon moyen. Parce que ce qui est un petit peu dommage parfois qu'on peut constater, c'est que soit dans le domaine de la guérison ou de la délivrance ou même d'autres choses, on essaye chaque moyen et en fait on va enchaîner 5, 10, 15, 20 moyens qu'on connaît, qu'on a appris ou qu'on a vu faire jusqu'à ce que ça marche. Mais franchement, c'est pas trop... Je suis pas sûr que ça soit tout à fait ça l'église glorieuse que le Seigneur est en train de susciter. Et je suis pas sûr qu'on puisse appeler ça de l'efficacité. L'efficacité, en principe, c'est vous faites quelque chose, ça marche. On dit que c'est efficace parce que on n'attend pas 36 fois. Le résultat n'est pas, on ne conteste pas le résultat, il est là. Et voilà, donc on dit que c'est efficace. D'accord? Si une lessive est efficace ou un truc anti-tâche est efficace, c'est parce que quand vous le mettez sur la tâche, il n'y a plus de tâche. Parce que si vous le mettez et qu'après il faut mettre encore un autre, encore un autre, on peut pas dire qu'il soit efficace le premier ou le deuxième ou même le troisième. Mais l'efficacité, c'est de savoir faire la bonne chose au bon moment. Et ça porte son fruit, ça a son résultat. Et Dieu veut nous donner cette connaissance et cette sagesse qui nous rend capables de le faire et d'être efficace. Parce que Dieu a une puissance qui se manifeste avec efficacité, comme disait l'apôtre Paul. Pas une puissance qui se manifeste à force de bricolage, une puissance qui se manifeste avec efficacité. Ça veut dire que quand Dieu envoie sa puissance ou libère sa puissance, elle est efficace. Donc apprenons à l'utiliser efficacement. D'accord? Vous pouvez avoir un produit efficace, mais si vous ne l'utilisez pas correctement, il se peut que le résultat ne soit pas là non plus. Donc nous avons besoin, nous aussi, de devenir efficaces dans la manière dont on vit les choses avec le Seigneur. Et Salomon, c'est quelqu'un comme ça. Hein. Je disais tout à l'heure, il a su déjà faire le bon choix de demander la sagesse de Dieu. Et cette sagesse lui a donné vraiment de devenir quelqu'un une référence et de vivre avec efficacité et d'amener des bonnes réponses, des bonnes solutions. Sinon, les gens ne seraient pas venus vers lui s'il racontait n'importe quoi. Ou s'il donnait un premier conseil qui ne fonctionne pas, il en donne un deuxième, un troisième, un quatrième, et peut-être qu'au bout de plusieurs fois, ça va fonctionner. Non. Nous avons besoin de cette sagesse. Parce que la sagesse appelle la bénédiction. Quand vous agissez avec sagesse dans une situation, vous amenez la bénédiction. Donc, sachons être sages. C'est ce que Paul demande pour les Éphésiens. Et les proverbes disent aussi que la sagesse et l'intelligence valent mieux que l'or et l'argent. Donc si vous avez de la sagesse et de l'intelligence, vous avez plus que tout ce que l'or et l'argent peuvent avoir, parce que ça vaut mieux. D'accord? Si 10 euros valent mieux que 5 euros, c'est parce qu'avec 10 euros, j'ai plus qu'avec 5 euros. Donc si avec l'intelligence et la sagesse, si ça vaut mieux que l'or et l'argent, c'est que ce que l'or et l'argent peuvent acheter, ben, la sagesse peut obtenir encore beaucoup plus. Beaucoup plus. Donc, vivons dans la sagesse et ne travaillons pas juste avec des méthodes systématiques pour mettre la main de Dieu en action, entre guillemets, mais soyons des gens qui posons des actes sur une direction, une inspiration et avec la sagesse de Dieu. Et la bonne nouvelle, c'est que, comme c'est dit dans Jacques, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Et Dieu va la donner, Dieu veut la donner. Il désire le faire. Donc la première chose qu'on va demander à Dieu, d'ailleurs Salomon aurait pu le faire, il aurait pu demander de l'autorité, de la puissance, de la richesse, mais on va même pas demander en premier la puissance à Dieu. Enfin, je crois être sage de ne pas chercher en premier de dire « Seigneur, donne-moi ta puissance » ou « Donne-moi ton onction », mais recevons la sagesse de Dieu. Demandons à Dieu davantage de sagesse pour être capable d'être des gens sages et d'agir comme il faut dans les situations et de faire les bonnes choses. Et on voit par exemple Paul aussi qu'à un moment donné, il touchait des linges, des mouchoirs, etc. Et ça, ça allait guérir les malades ensuite. Ben, ça ne veut pas dire qu'il faut maintenant tout le temps toucher des mouchoirs pour guérir les malades. On voit Pierre, à un moment donné, son ombre, elle guérissait les malades. Mais alors, je n'ai pas maintenant tourné le projecteur ou me mettre derrière pour qu'il y ait mon ombre là et que ça guérisse les malades. D'accord ? Ça paraît stupide, mais des fois, on est comme ça dans nos raisonnements. C'est bien ce qu'ils ont fait, c'était ce que Dieu voulait et c'était déjà impressionnant, mais il y a un flot de Dieu aujourd'hui, avec des moyens de Dieu aujourd'hui, qui peuvent être les mêmes que ce qu'on a déjà vu, mais où il y a aussi des choses différentes. Et on a vraiment besoin d'être sur ce flot-là, sur cette vague. Je ne vais pas développer un gros enseignement, mais c'est là le message qui est vraiment dans mon cœur. Et le Seigneur nous appelle à sortir des choses dans lesquelles on est peut-être installé, à sortir de juste de l'attente même, à même sortir de juste l'espérance ou le désir que Dieu se manifeste pour déclencher sa manifestation. Vous comprenez ? C'est bien d'avoir soif et de désirer et tout ça. Et il faut continuer d'avoir cette attitude, mais de pas juste être là en désirant quelque chose, mais à devenir ceux qui déclenchons cette manifestation. C'est-à-dire que non seulement je l'attends, mais je suis celui qui fait qu'elle vient. Je suis celui qui fait que quelque chose se passe. Et ça, c'est ce que Dieu désire pour nous. C'est ce qu'il veut faire. Et on n'a pas besoin de vouloir fabriquer quelque chose ou quoi. Non. Dieu agit. Et en fait, c'est la puissance de Dieu qui est à l'œuvre. Mais nous avons besoin de la déclencher. Dieu a besoin d'hommes et de femmes pour agir. C'est lui qui fait le miracle, c'est lui. C'est pas moi qui vais faire un miracle, d'accord ? C'est la puissance de Dieu qui agit. Mais je suis celui par qui, en entendant et en me laissant conduire par l'Esprit, je vais permettre à cette puissance de se manifester. Et soyons cela, vraiment. Il y a un besoin de ça. Et Dieu désire ça pour chacun d'entre nous. Parce qu'il veut se manifester. Il veut agir. J'aime dire qu'il est déterminé à le faire. Il a décrété qu'il le ferait. Il veut manifester sa puissance. Mais soyons ceux qui veulent vraiment que sa puissance se manifeste. En le désirant, en ayant soif, en cherchant la sagesse et en vraiment surfant sur cette vague. Apprenez à se mouvoir avec le flot de l'esprit. Jésus était plein de sagesse. Étienne était plein de sagesse. Moïse, Daniel. J'ai des versets, si vous voulez les noter. On ne peut pas tout lire là, mais souvent, quand on parlait, par exemple, de Jésus quand il était dans la synagogue, on disait de lui que d'où lui vient cette sagesse ? D'où lui vient cette sagesse ? Marc 6, verset 2, ou Étienne, dans Acte 6, verset 8 à 10, Acte 6, 8 à 10, on lui dirait aussi, mais d'où lui vient cette sagesse ? Il faisait des miracles et il était accompagné de sagesse. Donc, on a l'impression que le surnaturel et la sagesse, il y a un lien entre les deux. Il y a un lien entre les deux. Moïse, dans Acte 7, 22, on dit aussi de lui qu'il avait vraiment une sagesse. Et Moïse a été celui par qui de grands miracles se sont produits. Et Daniel, dans Daniel 1, 20, il était plein de sagesse aussi. D'ailleurs, à cette époque-là, on appelait sages les gens qui étaient connectés au surnaturel, que ce soit bon ou mauvais. D'ailleurs, les sages du roi n'étaient pas capables d'expliquer les songes, mais le sage de Dieu, si je puis dire, Daniel était capable de l'expliquer. Donc il y a vraiment un lien et nous avons besoin de recevoir la sagesse qui vient de Dieu. D'ailleurs Dieu lui-même, Proverbe 3, 19, dit que Dieu créa l'univers par sa sagesse. Donc la sagesse a vraiment un rôle à jouer, elle déclenche la puissance de Dieu. Être sage, c'est ne pas juste agir de manière inconsidérée, c'est le contraire, mais c'est justement de savoir reconnaître, analyser les choses et agir de la bonne façon. Et le Seigneur nous a donné le Saint-Esprit comme un guide, une aide, un conseiller dans ces choses. Donc aspirons à davantage de l'action du Saint-Esprit dans nos vies et ça nous aide à nous connecter au monde spirituel et au surnaturel de Dieu. D'accord ? Quand on prie en langue, quand on adore le Seigneur, tout ça, ça nous aide à être davantage ouvert à ce qui se passe dans l'Esprit. Et puis là, il y a la parole de connaissance qui peut venir comme don. Et en général, la parole de connaissance, quand elle est donnée, c'est pour que quelque chose se produise. D'accord ? Donc c'est quelque chose de bien, c'est quelque chose de bon. Et vraiment, désirons que ces choses soient manifestées au milieu de nous. On est une église de Pentecôte après tout, non ? Et au-delà d'être une église de Pentecôte, on est l'église de Jésus-Christ. Et c'est ce qui doit se passer dans une église de Jésus-Christ. Merci Seigneur. On a vraiment besoin d'exercice et d'action pour avancer dans ce domaine. Et oui, je disais tout à l'heure, le message de Dieu, comme il a été pour Élie, c'est « sort ». Donc Élie devait sortir de sa caverne pour voir la présence de Dieu. D'abord, il a vu d'autres choses, mais il a su reconnaître quelle était la présence de Dieu. Et si vous regardez l'histoire de Lazare dans l'évangile de Jean, Jean 11, où Lazare donc, est mort, il est dans le tombeau, ben Jésus lui dira « sors de ton tombeau ». Et je crois que c'est un appel qui est plus généralement lancé aussi à l'église de Jésus-Christ aujourd'hui. « Sortez donc de votre tombeau, Sors de ton tombeau. Pas que tu sois forcément mort spirituellement, mais ce tombeau, peut-être qu'on a fabriqué, je ne vais pas traiter les églises de tombeaux, mais de sortir de peut-être ce qu'on s'est fabriqué, de sortir de juste une espèce d'attitude spirituelle, mais pour vraiment déclencher des choses, pour amener quelque chose d'autre, pour aller au-delà. Il y a un appel de Dieu pour ça. Et ouais. Moi, franchement, je me réjouis de voir ce que Dieu va faire. Parce que je crois, j'ai la foi encore pour des hommes et des femmes qui vont vraiment vouloir aller plus loin. Et des hommes et des femmes qui vont vraiment saisir quelque chose. Aussi imparfaitement que moi je puisse exprimer mon message, je sais que le Seigneur parle. Et j'ai la foi pour que des gens ici et ailleurs, dans notre pays, dans nos nations et dans le monde entier, après tout, se lèvent et saisissent que nous sommes les déclencheurs de la manifestation de la puissance de Dieu. Qu'on arrête ces discours religieux là. Qu'on arrête de faire des heures et des heures de prière à demander à Dieu de descendre ou de faire je ne sais quoi pendant que Dieu attend que vous déclenchiez sa puissance. Lui, il est là. Ah, c'est suspendu là. Il y a le paquet cadeau. Quand est-ce que tu vas l'ouvrir? Ouais. On a vraiment besoin de se saisir de ça, mais chacun. Chacun parce qu'on a tous cette part à jouer. Et c'est vrai que dans l'Église, le corps du Christ, il y a des fonctions différentes, il y a des ministères, tout ça. Là, on a tous quelque chose à saisir. On a tous besoin de se connecter vraiment à ce que Dieu veut faire. On a tous besoin de surfer sur ce flot de l'esprit. Voilà. Ça fait peut-être pas très religieux comme terme. Hein. Excusez-moi. Mais vraiment, saisissons-le. Saisissons-le. Attrapons la vague. Et si vous avez envie de le dire autrement, dites-le autrement. Mais faisons-le. Soyons ces gens. Moi, je veux voir la puissance de Dieu. Puissions-nous grandir dans la sagesse, la connaissance, la révélation et la marche dans l'esprit qui fait qu'à un moment donné, on va être vraiment capable de j'allais dire même facilement, oui, j'ose le dire, de facilement déclencher la puissance de Dieu. Parce qu'au fond, ce n'est pas vraiment nos efforts, on a juste à entendre, à recevoir et à faire quelque chose qui fait que lui peut faire ce qu'il veut faire. Ce n'est pas moi qui vais essayer de faire son travail, mais je vais lui permettre de le faire. Je vais lui permettre de le faire. Oui. Dieu est prêt de son côté. Je ne sais pas si ce n'est pas évident pour tout le monde, je le dis, Dieu est prêt. Dieu est prêt. Et soyons de ces gens-là. Ce serait vraiment dommage de passer à côté. Vraiment dommage. Amen.